Alors, donc on va recommencer en fait. On a fait juste quelques lignes avant les vacances du chapitre 13. Donc on va recommencer au chapitre 13. Et pour ceux qui n'étaient pas là avant, on va faire un résumé de quelques minutes pour nous rappeler où on était. Quel est le but du Tanya? Le but du livre du Tanya dont on est au chapitre 13, c'est de nous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc déjà, d'emblée, dès le premier chapitre, on a expliqué que c'est pas seulement un moteur que nous avions chacun à l'intérieur, mais c'est deux moteurs. Un moteur qui s'appelle l'âme divine et un moteur qui s'appelle l'âme animale. Je voudrais m'arrêter quelques instants pour expliquer en quoi c'est une particularité du Tanya. Jusqu'au Tanya, on a toujours compris qu'à l'intérieur de nous, nous avions deux pulsions. Des pulsions positives et des pulsions négatives. Yetzer Tov, Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'on croyait que moi je suis une seule personne, mais bon, on a des fois des pulsions positives, des pulsions négatives. Pourquoi le Tanya ne veut pas s'arrêter uniquement à ça? Parce qu'en fait, l'homme est beaucoup plus complexe que ça. La preuve, c'est quoi? On peut se lever un matin, on a envie de faire teshuva, on a envie de faire une bonne journée, et bémet, on vient à la tefila, on vient au slichot, on vient avec beaucoup de bonnes intentions, et on prie de tout son cœur, comme si qu'on était un tzaddik. Et après, quelques heures plus tard, quand on va aller au boulot, quand on va dans la vie de tous les jours, on va se retrouver à faire des bêtises qui sont complètement incohérentes avec ce qui vient de se passer le matin. Donc, si on est un peu honnête avec soi-même, qu'est-ce qu'on se pose comme question? On se dit, soit le matin j'étais un mytho, soit maintenant quand je faute, je suis un mytho. Alors, ce qui est plus probable en général, c'est que le matin j'étais un mytho. D'accord? Donc, je me pose la question, je me dis, mais finalement, c'est pas possible. Bonsoir. Finalement, c'est pas possible. Je me retrouve à faire le matin quelque chose, l'après-midi quelque chose d'autre. Et des fois, avec un intervalle de quelques minutes, on se retrouve à faire deux choses, d'accord? Avoir deux comportements qui sont complètement contradictoires. Bonsoir. Ça va? Il arrive, David?
Oui, il arrive.
D'accord.
Bonsoir tout le monde.
Donc on se retrouve à avoir on fait un petit résumé là. Ouais. Deux comportements qui sont complètement contradictoires. Donc on se pose la question, qui suis-je? C'est là que vient la réponse de l'Admor HaZaken dans le Tanya. D'accord? L'Admor HaZaken, c'est l'auteur du Tanya. Qui dit qu'en vérité, la clé de la réponse, c'est que nous n'avons pas seulement une âme à l'intérieur, mais nous avons deux âmes, deux moteurs. Comme ça, à la mode aujourd'hui de parler des voitures hybrides.
Ouais,
Donc il y a deux moteurs. Il y a un moteur qui s'appelle l'âme divine, qui veut faire du bien, et un moteur qui s'appelle l'âme animale. Et donc, en vérité, on peut avoir des fois un moteur qui est en fonction, des fois l'autre moteur. Donc ce qui s'est passé en vérité, c'est que le matin, quand je voulais aller à la prière, quel moteur était en fonction? C'était mon moteur divin. Et par la suite, quand j'ai voulu faire des bêtises, c'était mon moteur animal qui s'est remis en fonction. Mais les deux moteurs sont toujours là. Ça, c'est une première chose qu'il a expliqué. Deuxième chidouche, deuxième nouveauté qu'on avait expliqué aussi dans les semaines avant les vacances, on avait expliqué que des fois, on croit que comme on a endormi un moteur, ça veut dire qu'il n'existe plus. En clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, des fois, on a fait teshuva, et au Hachem, sur une certaine avéra qu'on a fait pendant des années, on s'est arrêté, et ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'est arrêté, des fois même plusieurs années, donc on croit que c'est fini. Cette avéra, c'est terminé, elle ne me concerne plus, elle ne me parle plus, et que ce moteur-là est éteint, ce moteur-là est terminé. Et bien, avait expliqué l'Admor HaZaken que c'est faux. Que c'est pas parce qu'un moteur n'est pas en fonction qu'il est éteint. D'accord? La preuve, c'est qu'on voit clairement des cas, dans lesquels il y a des personnes, qui pensent avoir fait des choses sur quelque chose et que leur Yetzer Hara effectivement ne le dérange pas pendant plusieurs années sur un sujet spécifique, et qu'après tout d'un coup, d'accord, comme ils disent les Américains, out of the blue, ça veut dire tout d'un coup, tu ne comprends pas d'où ça sort, tout d'un coup, le Yetzer Hara il te réattaque pour des choses que tu croyais déjà réglées. Comment ça se fait? Parce qu'en vérité, merci, à moins d'être un tzaddik qui lui réussit effectivement à tuer son Yetzer Hara, comme ça on avait dit dans la Gemara, dit que le tzaddik lui a réussi à tuer son Yetzer Hara, quelqu'un comme nous qui n'est pas tzaddik ne peut pas tuer son Yetzer Hara. Au maximum, il peut le faire taire quelques temps, quelques mois, quelques années, quelques jours, quelques minutes, bon, après chacun selon sa réussite, mais on peut pas tuer son Yetzer Hara, ça n'existe pas. C'est très important à préciser ça, parce que sinon, on peut démoraliser très rapidement. Ah oui, parce que quand tu te lances dans une affaire, tu vas avoir des résultats. Et quand tu vois qu'à chaque fois, tu retombes sur le même problème, tu dis, mais attends, on va changer d'affaire, ça marche pas ce truc-là, c'est pas possible. Et c'est là la réponse, tu dis, non, c'est pas que ton affaire ne marche pas. C'est que c'est comme ça que Dieu t'a conçu, que tu as deux moteurs, et que même si tu réussis à éteindre un moteur de temps en temps, il s'éteint pas. Il est toujours là, il est en veilleuse, mais un jour, il va se réveiller. Et c'est là qu'on est arrivé au chapitre 10, 11 et 12, qui ont expliqué que dans ce combat constant qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, parce qu'il y a un combat constant. Qui va prendre le contrôle du corps? Est-ce que le corps va faire des bêtises ou est-ce que le corps va faire des mitzvot? Donc il y a un combat constant. Dans ce combat, il y a trois types d'acteurs. Premier acteur, le top, c'est qui? C'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est le top. Lui, le tzaddik, il a réussi à trouver la formule pour éteindre son yetzara. Il a tué son yetzara. Ça, c'est le tzaddik. Il y a très très peu de personnes comme ça qui sont capables de le faire. Bon, ça, ça en a expliqué. Ensuite, on a le rachat. C'est quoi le rachat? Ben, le rachat, c'est celui qui laisse toujours son yetzara parler. Donc, du coup, c'est le yetzara qui a ce quel dernier mot. D'accord. Et on a le benoni. Ah, le benoni, c'est un peu la star du Tania. C'est quoi le benoni? Alors, le benoni, concrètement, au niveau de la pratique, il faut pas. Il faut pas. Seulement, il a des pulsions. Et son Yitzhara l'attaque tout le temps. Et il le pousse, il le pousse, il le pousse, il le pousse. Mais qu'est-ce qu'on a expliqué? La force du Benoni, c'est quoi? C'est que chaque fois, il arrive à repousser son Yitzhara. Pourquoi je l'appelle la star du Tania? Parce que quelque part, être un Racha, c'est facile. D'accord? Tu te laisses faire, tu te laisses aller. Être un Tzadik, c'est aussi facile. Parce qu'il a une âme qui est conçue pour mettre à plat son Yitzhara, donc il le fait, et après, il est tranquille. Une fois qu'il l'a fait, c'est fini, son Yitzhara. D'accord? Il est par terre, il laisse tranquille, c'est fini. Mais être Benoni, c'est très compliqué. Parce que son Yitzhara continue toujours à l'attaquer, mais au niveau de la pratique, il faut pas. Et donc, c'est là qu'on a expliqué que le Benoni, finalement, c'est la star du Tania, et quelque part, c'est celui qui, des gens comme nous qui ne sommes pas tzadikim, qui essayons de pas être rachat, et chaque fois on repousse le Yitzhara, et en vérité, quand on réfléchit, on est toujours à peu près sur les mêmes combats. Et ben, ça, en vérité, on est, d'après ce qu'il a expliqué ici, sur ça, on est d'un niveau beaucoup plus fort qu'un tzadik. Un tzadik aura d'autres challenges que nous n'avons pas, peut-être sur du chiffre, etc. Mais nous, le fait d'être capable à chaque fois de repousser, alors qu'on sait pertinemment que ça ne marchera pas ad vitam aeternam, que chaque fois on devrait recommencer le même combat, c'est un srout, c'est un mérite extraordinaire. Donc jusqu'au chapitre 13, le chapitre 13 non inclus, on avait présenté ce combat comme quelque chose de logique. Quelque chose de gérable, et on avait expliqué que l'arme ultime qu'a l'âme divine pour combattre l'âme animale, c'est quoi? C'est le fait que concrètement Dieu a créé l'homme, que Moach Shalit à la lève. Le cerveau domine le cœur, ça veut dire que la volonté. Rien ne peut tenir devant la volonté. Ça veut dire que si je veux quelque chose, je finirai par l'avoir. Donc, en résumé, comment fait le Benoni pour casser à chaque fois son Yitzhara? Il suffit de vouloir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est très dur, mais il suffit de vouloir. Seulement, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de l'aide divine. On a parlé simplement, on a présenté ça comme un combat entre deux acteurs, âme divine, âme animale. Bon, il y a un combat, le Benoni, eh ben, il réussit à faire en sorte que son âme divine, c'est elle qui est la patronne et celle qui décide tout. Donc c'est un combat sans aide divine. Maintenant, ce qu'on va expliquer dans le chapitre 13, comme j'ai dit, on a déjà fait le premier lieu du chapitre 13, mais on va le refaire. Il va expliquer l'importance de l'aide divine. Comment en vérité, si ce n'était pas Dieu qui nous aidait pour ce combat-là, jamais ça aurait pu marcher. Impossible, ça n'aurait jamais pu marcher. Ça veut dire que on a beau expliquer que c'est logique, que c'est cartésien, et que en vérité, avec la volonté, rien ne tient devant la volonté. Mais concrètement, les challenges du Yitzhara sont tellement forts et les armes de l'âme divine sont tellement faibles parce que l'âme divine, finalement, c'est abstrait ce qu'elle nous propose. Et c'est abstrait. Elle te parle de Gan Eden. C'est abstrait tout ça. C'est pas des choses qu'on peut toucher. Le Yitzhara te propose des choses. Tu peux toucher. Donc ils ont pas la même valeur. Et donc c'est là qu'on va expliquer aujourd'hui que on est obligé d'avoir l'aide divine comme on va l'expliquer aujourd'hui. Alors dans les mots. Perek Yud Gimel chapitre 13. Donc dans le français pour ceux qui n'ont pas, il reste des livres encore ici.
Page 177.
Voilà, 177 et dans l'hébreu page 35. Serge là. Bazé Yuvan. Avec ça on va comprendre. Oui, on va reprendre le début. Ouais. Ouais. Là, c'est les vacances entre temps, on va reprendre au début. Voilà. Ou basé Yuvan Lashon Ma'amar Rabotenu Zichronam Livracha. En vérité, maintenant, avec ça, on va comprendre. D'ailleurs, on va rajouter des choses qu'on n'avait pas dit aussi avant les vacances, parce qu'entre temps, j'ai eu le temps de revoir encore. Et comme la Gemara dit, il n'y a pas de Bet Midrash sans Chidouche. C'est-à-dire, chaque fois qu'on repasse quelque chose, on trouve toujours des nouvelles choses qu'on n'avait pas vues. Ça, c'est la beauté de la Torah. Alors, la Gemara, dans le traité Brachot, nous parle du Benoni, du tzaddik et du rachat. Elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit la phrase suivante qu'on va devoir décortiquer aujourd'hui. Elle nous dit, le tzaddik se fait juger, comme c'est le terme qu'elle emploie, se fait juger par son yetzer tov, par son bon penchant. Le rachat se fait juger par son yetzerara, par son mauvais penchant. Et le benoni se fait juger par son bon penchant et son mauvais penchant. Donc évidemment, quel terme nous dérange ici? C'est le terme juger. Ça veut dire quoi juger? C'est-à-dire quoi quand on dit que je me fais juger par le Yitzhara, par le Yitzhartov? C'est-à-dire quoi juger? Quel rapport avec un juge maintenant? On aurait pu dire, le terme qu'on aurait dû employer, ça aurait dû être peut-être contrôler, ou inciter, influencer.
C'est quoi le contexte de ta citation?
Rien. La Gemara, elle vient, elle dit voilà, il y a une Gemara qui vient comme ça, de nulle part, qui dit, Tzadikim, Rechaim, Benonim. Elle dit, les Tzadikim se font juger par leur Yetzer Tov. Les Rechaïm.
Par Akadosh Baruch.
Non. Ah ben non. Ils se font juger par leur Yetzer Tov. Donc c'est le Yetzer Tov qui les juge. Les Rechaïm se font juger par leur Yetzer Hara. Et les Benonim se font juger par les deux.
Ils se font juger par Akadosh Baruch Hu sur l'intensité.
Ah ben non, de justement, c'est la question. Dans ce cas-là, c'est Dieu qui juge. Il y a un Dieu.
Ouais.
C'est le Yetzer Tov. Il est le bon penchant, le mauvais penchant. Il ne juge rien du tout. Ça veut dire quoi?
On peut juger sur la quantité ou la qualité du Yetzer Tov et la quantité et la qualité du Yetzer Hara.
D'accord.
Mais sur la répartition des deux.
Concrètement, ça veut dire quoi qu'il juge? Il juge quoi? Il juge qui?
Ça veut dire, par exemple, quand Tzadikim nous a dit juger sur la qualité, enfin, sur le Yetzer Tov, ça veut dire, puisqu'il n'a pas de Yetzer Hara, il est né sans Yetzer Hara, ou je sais pas.
Donc il se fait juger, tu veux dire, sur la base d'un Yetzer Tov.
Sur la base d'un Yetzer Tov, et sur la base de Yetzer Tov, il y a une échelle de 1 à 100. Est-ce qu'il est à 100
mais
ou est-ce
c'est
qu'il
est à 100 ? Une bonne réponse que tu dis, mais le problème, c'est que la Gemara n'a pas dit ça.
D'accord.
La Gemara n'a pas dit que le Tzadik se fait juger sur la base d'un Yetzer Tov. La Gemara a dit que le Tzadik se fait juger par son Yetzer Tov, par son bon penchant. Et là, ça tient pas la route. Ça veut rien dire.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui...
Alors justement, mais c'est vrai qu'il me juge. J'ai un penchant qui me juge à l'intérieur. C'est vrai qu'il me juge. Quel rapport à un jugement maintenant? D'accord. Ah, très bien. Très bien. Donc en vérité, ce qu'on va devoir faire aujourd'hui, on va devoir expliquer pour comprendre ce que cette Gemara a voulu dire, parce que n'oubliez pas que on cherche à comprendre nos trois acteurs, le Tzadik, le Racha et le Benoni, et on cherche à comprendre comment chacun va gérer cette challenge par rapport au Averot. Et la Gemara employait le terme juger. Quel rapport avec le juge? Alors en vérité, ce qu'on va devoir faire, si la Gemara employait le terme juger, ça veut dire qu'on va devoir s'imaginer un juge. Et on va devoir se poser la question, quel est le rôle d'un juge dans un tribunal? Et quand on aura compris ça, on pourra comprendre ce que la Gemara voulait dire. Alors avant d'avancer dans la suite, je vous pose la question, d'après vous, quel est le rôle d'un juge?
De diriger...
De donner une sanction.
Alors, on va présenter une scène. Donc, allez-y, Serge, présente-moi une scène.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un crime, et il y a le juge, donc il est là pour rediriger...
Ah, il y a un crime, attends, il y a un crime. Donc il y a Monsieur A, qui est présumé avoir tué Monsieur B. Mm-hmm. D'accord, il y a des témoins?
Oui.
D'accord. Il y a des témoins d'un côté, des témoins de l'autre?
Enfin, je...
Bon, alors qu'est-ce que font les juges? Il y a un procureur?
Il appelle les juges, voilà. C'est lui qui dirige, qui gère en fait...
Explique-nous les différents rôles qu'il y a maintenant dans le tribunal.
Ah, je pense que le juge s'occupe de gérer, de...
Alors, qui c'est qu'il y a dans le tribunal? Il y a d'abord les plaignants, d'accord? Enfin, il y a les lésés, ok? Il y a le procureur, c'est-à-dire c'est celui à qui, quand on a besoin d'un texte de loi, bon, c'est lui qui donne le texte de loi. On a les témoins, on a éventuellement les avocats, et on a le juge. C'est quoi le rôle du juge?
Faire la synthèse.
D'accord. Le rôle du... Mais c'est pas seulement une synthèse.
Je veux trouver la vérité.
Si tu fais la synthèse, à la fin, tu trouves la vérité.
C'est quoi le rôle d'un juge? Le rôle d'un juge, c'est de rassembler tous les éléments qu'il y a devant lui. Tous les éléments. Et selon les éléments qu'il a reçus, prendre une décision. Le rôle d'un juge, c'est celui qui va décider. C'est pas quelqu'un qui va dire, moi je pense que c'est comme ci, moi je pense que c'est comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Un juge, c'est quelqu'un qui doit décider. Ça veut dire qu'il doit avoir les épaules très larges pour dire, au vu de ces éléments, moi je pense que c'est comme ça. Bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord, il y a les avocats de l'autre côté, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il dit, moi je décide c'est comme ça. Ça veut dire que quel est le rôle d'un juge? Le juge a un rôle décisionnel, c'est lui qui décide. D'accord? Donc on s'approche un petit peu du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Donc ça veut dire qu'apparemment, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara ont un rôle décisionnel. Mais alors, concrètement, comment on peut expliquer ça? On va avancer.
Lui aussi, là, il aurait donc deux jugements, il aurait le Tov et le mauvais,
oui.
Qui est dirigé de là-haut.
Ah, attendez, là-haut, j'ai pas parlé encore pour l'instant.
Non, mais
déjà, on essaye de comprendre le mot juge. Oui.
Donc, cette décision, c'est pas de lui directement. C'est certainement quelque chose qui est dirigé de là-haut pour donner une sanction ou une bonne chose.
Ah, mais attendez, moi, par exemple, imaginez que le Yetzer Hara m'a proposé une Avera. D'accord? Qui a décidé de faire la Avera?
Moi.
C'est qui, moi?
C'est
qui a pris la décision?
C'est
ton
mauvais
penchant. Les gens, je vais quelque chose. Les gens, quand ils font une avéra, ils disent « Ah, c'est à cause de mon Yetzer Hara ». Quand ils font une mitzvah, ils disent pas « C'est grâce à mon Yetzer Tov ». Ils disent « C'est moi ». Quand ils mettent une avéra, ils disent « Ah, c'est à cause de mon Yetzer Hara ». Pourquoi là tu mets sur quelqu'un d'autre? On va expliquer un petit peu, faut qu'on rentre dans les détails. Là, on est que dans l'introduction. Mais on commence à comprendre qu'il y a quelque chose dans le mot juge. Dans le mot juge, il y a quelque chose. Donc dans les mots. Je reprends le chapitre. Avec ça, on va comprendre le langage qu'employait les Chachamim, parce que le langage des Chachamim est très précis. Ils ont dit, Benonim, Zevazé Shoftam. Les Benonim se fait juger par son Yetzer Tov et par son Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi par les deux? Pirouche, ça veut dire, Yetzer Tov, Yetzer Hara. Le Benoni se fait juger par son Yetzer Tov et par son Yetzer Hara. Pourquoi? D'où c'est ça la Gemara? Dirti, parce que c'est écrit dans le psaume 109, qui a Amod, Limin, Evion, Léoshia, Mishofte, Nafsho. Le psaume 109, le roi David dit comme ça, que Dieu se tient à la droite du pauvre. Et quand on parle d'un pauvre ici, on ne parle pas d'un pauvre financièrement. On parle d'un pauvre, d'une personne qui est vraiment pauvre. Ça veut dire qu'il est pauvre en mitzvot, et qu'il n'arrive pas à s'en sortir face à son yitzhara. Donc c'est un rachat, peut-être, oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des ressources très faibles, spirituellement. Et là-bas, le verset dit, le roi David dit, Léoshia, Mishofte, Nafsho. Dieu se tient à la droite du pauvre pour le sauver des juges de son âme. Et donc c'est de ça que la Gemara a compris qu'en vérité, ce pauvre-là a deux juges. Un juge qui s'appelle le Yetzer Tov, un juge qui s'appelle le Yetzer Hara. Alors là, il commence à expliquer. Il dit, Velo Amrou, Zevaze Moshlim Chas Veshalom. La Gemara nous a pas dit que les deux, que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara dominent la personne. C'est très important ce qu'on est en train de dire ici. Parce que si on avait employé le terme dominer, dans ce cas-là, ça aurait été très grave. Ça aurait laissé entendre que l'homme n'a pas de choix.
Ah oui,
si tu dis que le tzaddik se fait dominer par son yetzer tov, le rachat se fait dominer par son yetzer hara, et le benoni se fait dominer par les deux, ça veut dire que j'ai plus de libre arbitre. Et donc si j'ai plus de libre arbitre, tu peux plus me punir pour mes averot et me récompenser pour mes mitzvot, c'est impossible. D'accord? Ça c'est Rambam qui explique longuement. D'accord? Rambam explique longuement. Il dit que pour croire à la notion de salaire, donc de récompense et de punition, il faut croire en la notion de libre-arbitre. Parce que s'il n'y a pas de libre-arbitre, tu ne peux pas punir la personne pour une bêtise et tu ne peux pas le récompenser pour une mitzvah, puisque ce n'était pas son choix, de toute façon il devait le faire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la Gemara a fait très attention de ne pas employer le terme ici, juge, de ne pas employer le terme, pardon, dominer. Le Yetzer Tov ne domine personne. Le Yetzer Hara ne domine personne. Alors c'est quoi son rôle ? C'est un juge. C'est quoi un juge ? Kikshayesh, Ezoshlita, ou même Shala, le Yetzer Hara, Beirktana, Afilu, le Fisha, Akala, Nikra, Racha, Beotasha'a. En plus, il a un argument très logique. Il dit que si on dit que le Yetzer Hara domine la personne, au moment où le Yetzer Hara domine la personne, à ce moment-là, la personne est un racha, puisqu'il s'est dominé par son Yetzer Hara. Donc c'est pas dominé, c'est un juge. C'est quoi un juge? Et là, Yetzer Hara et Nora, Kalder Machal, j'accélère un peu, hein, parce qu'on avait déjà fait ça. Kmo Shofet Vedayan a Omer Dato Mishpat. Ah. Là, en vérité, ce qu'il te dit, dans un jugement, plus le jugement est important, et plus il y a de juges. En général, dans un jugement classique, il n'y a pas un juge. Combien de juges il y a en général?
Trois.
Minimum. Dans la Torah, minimum, trois juges. D'accord? Quand il y a un juge dans la Torah, il y a des cas où il y a un juge, mais c'est dans le cas, Voilà. Quand, par exemple, c'est un professionnel, et que c'est une personne que les deux, le plaignant et le lésé, les deux, ont accepté de se faire juger par lui, et ont accepté que ce qu'il dira, on acceptera. D'accord? Et ça, c'est dur, ça, parce que ça veut dire, tu dis que ce qu'il va dire, il n'y aura personne qui va le contredire et il n'y aura pas la même histoire de la majorité. Mais ça, c'est relativement rare. En général, dans la majorité des cas complexes, il y a toujours trois juges. Toujours un chiffre impair. Un chiffre impair pour s'assurer que, même s'il y a une personne qui est en désaccord, bon, on va faire la majorité. Ah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge, son rôle, c'est quoi? C'est de décider, mais finalement, il n'a pas le dernier mot. Puisque peut-être que la majorité ne va pas le suivre. Donc c'est pour ça qu'on n'emploie pas le terme dominer. Le juge ne domine pas le tribunal. Le juge ne domine pas la loi. Le juge va décider, mais il n'est pas seul à décider. Ça veut dire que concrètement, c'est possible que ce que lui il a jugé, ce que lui il a décidé, ça se passera pas comme ça. Est-ce que vous voyez ce qu'on a gagné avec le juge? Ce qu'on a gagné, c'est qu'il va dire son point de vue et que pour lui, il est persuadé que la vérité est comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on va l'écouter. Quel rapport avec nous? Ben, c'est la même chose. Le Yetzer Tov va dire, le bon penchant, va me dire au fond de moi, il va me faire sentir son point de vue avec une conviction énorme. Le Yetzer Hara, lui aussi comme un juge, il va me dire son point de vue avec une conviction énorme. Ça veut dire chacun va dire, j'ai décidé ci, j'ai décidé ça. Il nous manque le troisième. C'est qui le troisième?
C'est toi.
Le troisième, c'est Hachem. Parce que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est moi les deux. C'est, si tu veux, c'est deux côtés de ma personne. C'est qui le troisième? C'est qui le troisième juge? C'est Akadosh Baruch Hu. Et là, le troisième juge, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va te donner un coup de pouce pour que la majorité aille du bon côté et automatiquement, tu vas réussir à aller du bon côté. C'est-à-dire que le thème de ce chapitre, c'est d'expliquer comment sans l'aide divine, c'est impossible de s'en sortir. Parce que le Tzara est tellement fort que concrètement, tu es entre les deux et quand tu es entre les deux, c'est impossible d'avoir 100% de réussite. C'est pas possible. Et même, c'est-à-dire, normalement, théoriquement, tu aurais dû avoir 50% de réussite. Et encore. Parce que le Tzara, il est très très costaud. Alors comment on fait pour avoir beaucoup plus?
Si on a les deux dieux, on doit avoir 100% de réussite.
Si on a? Ah, très bien, votre question. Très bien, t'as raison. L'aide de Dieu. Si on a l'aide de Dieu, normalement, théoriquement, on devrait avoir 100% de réussite. Tu as raison. Tu as raison. Seulement, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que le juge, il va décider. Maintenant, est-ce que la loi va être appliquée? Il faut encore une autre étape qui est appliquer la loi. Ça veut dire, c'est possible qu'au fond de moi, j'ai décidé que ça c'est le bien que je dois le faire, mais que concrètement, dès que j'arrive au niveau de l'action et je dois le faire, bah, il y a un blocage, je ne fais pas. Ça veut dire, Dieu va m'aider à voir la vérité, mais est-ce que je vais la faire? Ça c'est moi qui décidera. Personne ne pourra décider à ma place. Exactement. Mais l'aide de Dieu, c'est quand même de m'aider à décider ce qui est bien pour moi.
Avoir
et donc à décider. Je décide qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que ça veut dire que je vais le faire? Pas forcément. Comme pour ceux qui étaient là au cours de qu'on a fait Shabbat après-midi, on a expliqué que c'est quoi la teshuva de Elul. La teshuva de Elul, c'est le fait que on va se réveiller et on va se remettre en question pour savoir qu'est-ce qui est bien pour moi. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais changer mon comportement. Là, c'est possible que je change mon comportement qui est en ticherie et encore pour Rosh Hashanah. Mais la teshuva du mois d'Elul, c'est un moment du bilan. Qu'est-ce qu'on fait dans un bilan? Dans un bilan, on voit déjà ce qui ne va pas. Est-ce que ça veut dire qu'on va réparer ou qu'on l'a réparé? Non, j'ai pas dit ça encore. Mais au moins, quand tu fais un bilan, d'accord, un bilan, une remise en question, un inventaire, d'accord, etc., on essaye de voir les points qui ne vont pas. C'est très important, ça. C'est ça ce qu'on fait en réalité, le juge. Ça, c'est le rôle du juge. Ça veut dire, le juge, il dit, voilà, d'après mon bilan, tac, c'est ce que tu dois faire. Voilà pourquoi on appelle le Yetzer Tov et le Yetzer Hara des juges. Pour dire que, autant ils vont dire leur point de vue avec une conviction, ils sont sûrs à 100% comme un juge, et autant tu n'es pas obligé de les écouter de la même manière que le juge n'est pas obligé d'avoir le dernier mot, puisqu'il y a trois juges, et ben, s'il y a deux juges qui sont contre lui, on ne l'écoutera pas. D'accord? Voilà l'idée que la Gemara voulait nous amener en parlant du juge. Mais on va développer encore un peu plus cette notion du juge. Je reprends Ela et Tzara. Donc en français, on est à... Voilà, je suis au quatrième paragraphe de la page 178. Et là, à Yetzerara, seulement le Yetzerara, et il n'aura qu'à le derrière Machal. Il naît seulement, donc comme par exemple, comme l'exemple qu'on a donné, que mot Shofet Vedayan, comme un juge. D'accord? Donc c'est deux termes pour dire le juge, à Omer Dato Bemishpat, comme un juge qui donne son point de vue, mais son point de vue, il est sûr de ce point de vue, mais il donne son propre point de vue, Bemishpat, dans un jugement. Fait Afal Piken, et quand même, Yachol Liot, il est possible, chez lo yepsak al hakar le maase. Il est possible que concrètement, le psak, ça veut dire la décision, ne sera pas comme ce que le juge a dit, bien que le juge était déterminé à 100%. Mipne, parce que, chez yesh od shofet vedayan acholekala, parce qu'il y a encore un autre juge, qui est cholek, qui est en machloket, qui est pas d'accord avec ce juge-là, va tsarich l'achia benem, et donc, du coup, il va falloir être machia, ça veut dire, il va falloir arbitrer entre les deux, va alacha, qui est divré à machia, et la alacha sera toujours comme celui qui va arbitrer, c'est comme celui qui va arbitrer entre les deux. Alors, avant les vacances, on avait expliqué qu'il y a plusieurs formes de jugement, mais une des formes de jugement les plus connues, et c'est d'ailleurs la forme de jugement qui est la plus connue aujourd'hui, qui est pratiquée en Israël pour tous les dîners mamonot, d'accord? C'est-à-dire tous les litiges financiers, et même un petit peu aussi pour les litiges de mariage, de divorce, c'est la notion de Zabla. Zabla, c'est les initiales de Zeborerlo Echad. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs tribunaux. Et évidemment, chacun a envie de choisir son tribunal. Et bon, il y a des tribunaux partout. Pourquoi chacun veut choisir son tribunal? Parce que chacun dit, oui, ton tribunal, ils te connaissent, et donc on risque de me léser. Ce qui théoriquement devrait être faux, normalement. Parce que normalement, des juges devraient être impartiaux. Mais la réalité est que le plaignant risque de se sentir, d'accord, de ne pas se sentir représenté et de ne pas se sentir écouté. Alors, quelle est la technique? La technique est très simple. C'est comme une technique d'arbitrage. D'accord? C'est quoi? Chacun des deux plaignants va choisir un juge, et les deux juges ensemble vont convenir d'un troisième juge. D'accord? Alors, on m'a dit, je connais pas les techniques d'arbitrage en France, mais on m'a dit que c'est une technique qui est connue en France dans les arbitrages, que chacun choisit un arbitre, et les deux arbitres ensemble choisissent un troisième arbitre. Je sais pas comment ça marche en France, mais on m'a dit qu'apparemment, c'est des choses qui sont
assez monnaie courante. Les arbitres ne sont pas d'accord, ils ont choisi un troisième. Pour les départager.
Ah, non, mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, il faut toujours un chiffre impair. Normalement, le mieux, ça aurait été que les deux se mettent d'accord pour un juge, comme a dit tout à l'heure Abraham, un juge professionnel. Ça, c'est le top. D'accord? C'est-à-dire, les deux, on se met d'accord d'aller voir un rab et que le rab va nous régler notre litige. Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, chacun va choisir un arbitre, mais dans ce cas-là, il faut un troisième, et donc, et qu'est-ce que dit le Shouchan Aruch? C'est là que ça vient de la Gemara. Que Alaha, qui est divré à Machia, la Alaha sera toujours comme le troisième arbitre. Ça veut dire que les deux vont donner leur point de vue, mais le troisième arbitre qui a été choisi par les deux.
Sauf si les deux sont d'accord, c'est en cas de désaccord des deux.
Évidemment, sont d'accord, ils sont d'accord, ils sont la majorité. Voilà.
Donc ce sera le. Voilà, ce sera
mais toujours trois. Toujours trois. On fait toujours appel à trois. Alaha, qui est dit vrai, Amachria. Là, Alaha, elle est comme celui qui va trancher entre les deux. Donc il y aura un troisième. Alors maintenant, on va essayer maintenant de quitter la scène du tribunal et on va maintenant revenir à l'intérieur de nous. On va expliquer qui est le côté droit, qui est le côté gauche, d'accord ? Quel est le juge qui dit blanc, quel est le juge qui dit noir et quel est le rôle de la Kadosh Baruch Hu. Alors il va nous donner pas mal de détails importants à comprendre ici. Car il en est de même. Ayetzer Ara, Omer, Dato, Bachalal, Asmali, Shevalev. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 12. Que nous avons deux quartiers généraux dans le corps. On a le cerveau et le cœur. Le cerveau est le quartier général de l'âme divine. Le cœur, qui est le centre des pulsions, est le quartier général de l'âme animale. Très bien. On va commencer par le plus simple. On va commencer par l'âme animale. Bon. L'âme animale, il donne son point de vue dans le cœur. Ça veut dire qu'il donne une pulsion qui dit « j'aimerais faire ça ». Pas parce que c'est logique, parce que la preuve c'est qu'il va regretter après qu'il l'a fait. Donc logiquement, il n'y a aucune raison de le faire. Mais dans son cœur, il se dit « je veux le faire ». Bon. Donc il y a un premier juge. Pourquoi on l'appelle un juge ? Parce qu'il est convaincu comme un juge. Il est convaincu. Il dit c'est ce qu'il te faut maintenant. Il faut le faire. Donc il donne son point de vue. Il envoie, d'accord, une pulsion dans le cœur et du cœur la pulsion elle vient dans le cerveau pour te dire tu dois le faire. Réfléchis comment tu vas y arriver. Mais ça veut dire tu dois le faire. Il faut le faire. Donc il y a une pulsion de faire une bêtise et une pensée qui lui vient à l'esprit pour dire réfléchissons comment on va arriver, comment on va arriver à ce résultat. Ça c'est le juge de gauche, le juge de l'Yetzara. Donc, car il en est de même. Ayetzerara, le Yetzerara, Omer Da'ato, il dit son point de vue, Bachalal Asmali Shebalev, dans le côté gauche du cœur. Ou Mehalev, et du cœur, Olé la Moar le Harerbo. Du cœur, ça monte au cerveau pour se mettre à réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pulsions, tout le monde a des pulsions. Personne ne pourra arrêter ça. Celui qui n'est pas tzadik ne peut pas arrêter ses pulsions. À quel moment commence la Vera? La Vera commence quand tu commences à réfléchir comment arriver à ça. Alors ça peut être, par exemple, penser à quelque chose d'interdit. La pulsion, c'est normal que tu aies une pulsion. Personne ne pourra te l'enlever ça. Mais quand tu t'y mets à y penser, ça vient du Yetzara. Yetzara, il t'envoie une pensée dans la tête pour te dire tu vas réfléchir maintenant à cette pulsion pour réfléchir comment tu vas y arriver. Ça, c'est le juge qui s'appelle le Yetzara, qui est convaincu et persuadé. Miyad, tout de suite, instantanément, au même moment. Cholek alav hashofet hasheni. Est en machloket sur ce premier juge, le deuxième juge. C'est qui le deuxième juge? C'est le Yetzer Tov, l'âme divine, Shehu Anefesh Elokit Shebemoar, qui est l'âme divine Shebemoar, qui se trouve dans le cerveau. Alors, remarquez bien la manière comment il a formulé sa phrase. Tant que les pulsions restent dans le cœur, l'âme divine, elle dit rien. Elle dit bon, tant que ça reste dans le cœur, ça me dérange pas. Mais dès que ça commence à monter dans le cerveau, ça veut dire que on commence à réfléchir comment on va passer à l'étape suivante, là, tout de suite, l'âme divine, elle arrête, elle dit, je suis pas d'accord. On s'arrête là tout de suite. Pourquoi? Parce que l'âme divine, on l'a touché dans son quartier général, qui est le cerveau. Et là, l'âme divine, elle en marche loquette. Elle dit, je suis pas d'accord. Elle dit, Amit Pachet Bechalal Aymanu Shebalev, mais comme Ishkan Ayetzertov, dans le cœur. Alors là, par contre, c'est, on fait le côté inverse. L'âme animale a démarré du cœur pour aller vers le cerveau. Ça veut dire, dans le cœur, il y a eu une pulsion, et il envoie un signal au cerveau pour lui dire, je veux le faire, arrange-toi pour que je le fasse. Ça, c'est l'âme animale. L'âme divine, c'est exactement le contraire. C'est, dans le cerveau, il dit, ce que tu veux faire n'est pas bien. Et il va tout faire pour essayer de t'envoyer une pulsion dans ton cœur pour que tu ressentes que ce que tu vas faire, c'est pas bien. Et moi, je suis entre les deux. Donc d'un côté comme ça, de l'autre côté comme ça, et moi, je suis là. Qu'est-ce que je veux? Et c'est deux pulsions qui sont en même temps. Ça veut dire que c'est en parallèle. Les deux sont en parallèle, les deux sont en même temps. Toi, t'es tiré entre les deux, tu sais pas quoi faire. D'accord? Ça fend le cœur, comme ça on dit. Tu sais pas quoi faire. Ça veut dire, autant le premier te fait ressentir que ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est de faire la Vera. Et autant le Yetzer Tov arrive à te faire sentir que la Avera, c'est qu'il y a des pires pour toi. Il est tiraillé. Vous savez à quoi ça correspond, ça? C'est très simple. Ça correspond aux quelques secondes avant qu'on fait la Avera. Avant que tu fasses une Avera, tu vois, le moment dans lequel tu hésites, tu sais pas quoi faire. Et ben, à ce moment-là, c'est ce fameux combat qui est en train de se passer. Approche-toi. Oui.
Le Damien, il parle réellement du cœur.
Ah, non, c'est une image, le cœur. Oui, c'est une image. Quand on parle du cœur, c'est une image pour dire le monde des sentiments.
Oui, c'est pas
l'organe.
Les deux sont dans le cerveau.
Oui, je sais. C'est une image. C'est une image, mais c'est une image qu'on garde toujours. Hein. D'ailleurs, même aujourd'hui, avec la science qu'on connaît, toujours, quand on dit le cœur, ça veut dire un homme qui a du cœur, etc., de bon cœur. Le cœur, c'est le symbole des sentiments. Mais tu as raison que, biologiquement, J'ai demandé à des docteurs, mais biologiquement, c'est, en tout cas, aujourd'hui, ça ne s'explique pas. Peut-être qu'un jour, on comprendra, mais biologiquement, ça ne s'explique pas. Biologiquement, tout est dans le cerveau. Bien que, on sait quand même que le cœur et le cerveau sont les deux organes principaux, d'accord, les deux organes vitaux nécessaires. D'accord. Et d'ailleurs, dans le chapitre, ça c'était dans le chapitre 9, on avait expliqué que c'est quoi le rôle du cœur? Qu'est-ce que fait le cœur? Quel est le rôle physique du cœur? Qu'est-ce que fait le cœur? Il pompe le sang, d'accord? Et qu'est-ce qu'il met dans le sang? L'oxygène. Et après, le sang repart. Bon, donc, c'est quoi le sang? Le sang, c'est la vie. Quand tu as un sang oxygéné qui repart, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la vie, c'est le symbole que ça bouge. Tu comprends? Alors que le cerveau, c'est un monde qui est froid. Donc on peut retrouver un petit peu ça même physiquement. Que le cœur, ça représente l'action, l'activité, alors que le cerveau représente, si tu veux, la réflexion et tout ce qui est calculé. Mais tu as raison que, biologiquement, dire que les sentiments se trouvent dans le cœur, aujourd'hui, ça s'explique pas. Tout est dans le cerveau. D'accord? En tout cas, maintenant, on est dans cette fameuse guerre. On a le Yetzer Tov d'un côté, enfin, c'est le Yetzer Hara le premier qui a commencé. Le Yetzer Tov, il a rien demandé à personne, le bon penchant n'a rien demandé à personne. Mais le Yetzer Hara, il attaque, il envoie une pulsion. Donc, la pulsion part du cœur vers le cerveau. Le cerveau, dans le cerveau, il y a le Yetzer Tov qui renvoie une autre pulsion au contraire vers le cœur pour lui dire, attention ce que tu fais, c'est pas bien, c'est très très grave. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a deux juges. Et comme dans un jugement, comme dans un tribunal, des fois, les deux juges, ils peuvent se battre encore plus que les plaignants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans la Gemara, on a des histoires dans lesquelles, c'est deux plaignants qui sont venus pour se battre, donc pour des petits trucs à la limite, bon, des petits trucs, quoi. Ils sont venus pour se battre pour des choses qui sont pas d'accord. Et les deux juges, les deux, chacun est déterminé, et du coup, ils vont se mettre à se battre encore plus à tel point que les deux, ils se regardent, ils disent, attends, bon, ça va, c'est bon, on va s'arranger, tu vois. Pourquoi? Parce qu'un juge, quand il est convaincu, il fait tout pour convaincre l'autre. C'est normal, c'est son rôle. Et c'est exactement la même chose, le Yetzer Tov, le Yetzer Hara. C'est des juges. Ça veut dire, le Yetzer Tov, il est convaincu que ce qui est bien pour toi, c'est de faire une mitzvah. Le Yetzer Hara, il est convaincu qu'il faut que tu fasses une avéra. Et Dieu les a créés comme ça, convaincus les deux. Et moi, je suis entre les deux. Je suis entre deux personnes convaincues qui sont en train de bourrer la tête. Normalement, c'est impossible de s'en sortir. En tout cas, c'est impossible d'avoir 100% de réussite. Si c'est impossible d'avoir 100% de réussite, Dieu ne peut pas me punir, il ne peut pas me récompenser. On est obligé de dire qu'il y a un troisième juge. C'est quoi le troisième juge qui va dire ici? Alors, va l'acha que divré amachia. La l'acha va être comme celui qui est machia, ça veut dire comme celui qui va arbitrer, qui va trancher entre les deux. C'est qui celui qui va trancher entre les deux? Hu akadosh baruch hu. Je suis à la page 179, hein, au milieu de la page. Hu akadosh baruch hu. C'est akadosh baruch hu. A ozro le hayet tertov. C'est Akadosh Baruch Hu qui va aider le bon penchant. Que Ma'amar Rabotenu Zichronam Livracha. Comme nos Chachamim disent, il m'allait Akadosh Baruch Hu Ozro. Si ce n'était Dieu qui aidait le Yetzer Tov, En Yacholo, on n'aurait jamais pu convaincre et gagner le Yetzer Hara. C'est impossible.
Donc ça veut dire concrètement qu'il est plus faible, le Yetzer Tov, dans ce cas-là.
Évidemment.
S'il a besoin de l'aide divine.
C'est pas qu'il est plus fort.
Il est moins puissant.
C'est pas plus fort, plus faible. Le problème, c'est que un représente le monde spirituel, l'autre représente le monde matériel.
Oui, d'accord, mais ça, je suis d'accord.
Donc, même si le monde spirituel peut être plus fort que le monde matériel, mais le Yetzer Hara aura toujours une longueur d'avance parce qu'il te présente des choses que tu peux toucher. Et donc, c'est des choses que tu peux toucher, c'est tangible, c'est palpable. Donc, logiquement, il est plus fort. Et logiquement, il est plus fort. Un, il te présente un produit que tu auras dans 50 ans, peut-être, etc. L'autre, il te dit, voilà, mon produit, tout de suite, il est là, et hop, hop. T'as vu ce qui s'est passé avant, je te repose le même produit maintenant. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Très difficile à répondre à ça. Et il te propose un produit now, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais à répondre à ça?
Oui. Quand tu fais une avéra, c'est que Hachem n'est pas assez fort. Non. Ça veut pas dire ça.
Non.
N'a pas convaincu.
J'ai pas dit ça.
Ça veut dire
quoi? Dans ce cas-là, ça veut dire que je suis pas Benoni? C'est le Benoni qui se fait juger par les deux. Le Racha, il se fait juger plus par son Yetzer Hara. En vérité, pour ceux qui étaient là, quand on avait fait le chapitre 11, on est arrivé à la conclusion que quelque part, on est tous des bons Racha. Parce que le Benoni ne faute jamais. Il a des pulsions, mais il faute jamais. Jamais. D'accord? Alors nous fautons. Donc, quelque part, on n'est pas Benoni. On espère être Benoni. Maintenant, ce qu'il faudrait expliquer, ça, on s'est pas arrêté du sujet la dernière fois, c'est, il faudrait expliquer, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu nous aide? Concrètement, ça s'exprime comment? Parce que le Yetzer Hara, je sais comment il m'attaque. Le Yetzer Tov, je sais comment il se défend. Ça, je sens. Je sens que quand je fais une avéra, j'ai une pulsion qui me pousse à faire la chose, et d'un autre côté, j'ai ma conscience qui me travaille, qui me dit non, ne le fais pas. Ça, je peux l'expliquer, je le sens, ça. Mais tu dis qu'il y a un troisième juge. C'est quoi ce troisième paramètre? Comment on peut l'expliquer? Comment on peut concrètement, ça s'exprime comment? Comment Dieu m'aide? Comment on peut exprimer cette aide? Alors, il explique, c'est très simple. Diva Ezer, c'est quoi cette aide? En fait, c'est quoi cette aide? C'est que pendant cette période-là, quand la personne est tiraillée entre les deux, entre son bon penchant et son mauvais penchant, la personne est dans l'obscurité. C'est un peu comme ça nous arrive des fois quand on doit prendre une grande décision, et que tu peux dire à droite comme à gauche, et t'arrives pas à décider. D'accord? Et la Gemara a dit que le doute comme ça peut tuer une personne. Être dans le doute, ça peut esquinter une personne. Rester dans le doute, et après tu dis à chaque fois, même une fois que tu t'es lancé, tu dis oui, mais peut-être c'est pas ça que j'aurais dû faire ça. Ça te travaille, ça peut travailler des années comme ça. C'est pour ça que la Gemara a dit là-bas, elle dit que En Simcha, ki atarat aspekot. Il n'y a pas de plus grande joie qu'un moment dans lequel tu as réussi à résoudre un doute, à enlever le doute. Des fois, il y a des gens dans lesquels ça prend des années. Ils sont déjà lancés, et pendant des années, ils se posent la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Bon. Revenons à notre tzertov et notre tzerara. La personne est tiraillée entre les deux. D'un côté, il veut faire la vera, d'un autre côté, il y a sa conscience qui travaille qui lui dit c'est pas bien. Donc du coup, il est tiraillé entre les deux. Il sait plus dans sa conscience qui il doit écouter. Est-ce qu'il doit se laisser faire ou est-ce qu'il doit au contraire se reprendre? Il a besoin qu'on allume la lumière. C'est quoi la lumière? Il a besoin que Dieu allume la lumière pour lui montrer la vérité est là. Et c'est ça ce que tu dois faire. Dieu ne prendra jamais une décision à ta place. Jamais. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est la force du juge, d'accord? Du jugement de Dieu par rapport aux autres jugements. C'est quoi? C'est que ça, la grande force. La force qu'a Dieu par rapport aux autres jugements, hein, c'est que quand on avait deux juges tout à l'heure, il y a un juge qui dit blanc, le juge qui dit noir. Le troisième juge va dire blanc. Celui qui a dit noir, il pense toujours qu'il faudrait dire noir. Seulement, il n'a pas le choix, il est minoritaire, donc dans ce cas-là, il doit suivre la majorité. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est plus fort que ça. Akadosh Baruch Hu, quand il t'allume la lumière, il fait en sorte que même ton Yitzhara, même l'autre juge comprend que la vérité était blanc. Ça, c'est une force. Ça, c'est la force du Benoni. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de pulsions. Il a des pulsions. Mais de temps en temps, comme ça, Dieu lui ouvre les yeux. Dieu lui ouvre les yeux pour lui montrer que tu as fait le bon choix. Alors, je sais pas comment, combien de fois on le ressent dans la vie. Mais je sais que des gens qui sont passés par une teshuva, et on passe tous par des teshuva, d'autant plus que les gens qui sont passés par des grandes teshuva, les gens qui font teshuva racontent que quand ils font teshuva, au début, les premières années, bon, enfin, les premiers mois, etc., c'est très difficile parce qu'ils se posent des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis pas parti trop loin? Ils se posent des questions. Il y a des moments dans la vie dans lesquels, tout d'un coup, ils sentent comme si qu'ils voient la lumière. Ils sentent qu'ils sont persuadés qu'ils ont fait le bon choix. Ça veut pas dire que c'est devenu facile. C'est pas devenu facile. Ils ont toujours des problèmes avec leur famille, etc. C'est compliqué. C'est très compliqué avec leurs amis. Mais il y a des moments dans lesquels tu sens qu'on t'ouvre les yeux et qu'on te montre tu as fait le bon choix. Au moment où tu as eu ce sentiment-là, tu as tout gagné. Au moment où tu as eu ce moment-là, que tu as eu ce sentiment-là, tu sais que tu es dans le droit chemin. Quand tu sais que tu es dans le droit chemin, automatiquement, après, c'est facile d'avancer. Ça ne veut pas dire que le travail est plus facile, mais ça veut dire que tu es rassuré. Et bien, ça, c'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. L'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand de temps en temps, il t'ouvre les yeux, il t'allume la lumière pour te montrer, pour te dire le chemin que tu es est un bon chemin. Et ça, ça me rassure. Ça, c'est l'aide qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ça? Un moment dans lequel tu sens que tu es dans le droit chemin, que tu as pris les bonnes décisions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Yves, tu es avec nous?
Oui.
D'accord.
Parler de. C'est plutôt comme une lueur.
C'est comme une. C'est-à-dire tu vois la lumière au fond, tu sens que tu es dans le bon chemin, tu sens que tu as fait le bon choix. D'accord? C'est un petit peu comme une personne, on pourrait donner un exemple dans les affaires. Une personne qui veut se lancer dans une affaire. Et il n'est pas sûr. Est-ce qu'il se lance? Il ne se lance pas. C'est un gros investissement. Et c'est encore difficile parce que les premières années sont très difficiles. Il faut beaucoup investir. Mais à un moment, au bout de quelques mois, il voit la lumière au fond. Il sent qu'il dit, bon, c'est encore difficile. J'ai encore plusieurs années de travail qui m'attendent. Mais il sent qu'il est dans le bon chemin. Il sent que ça aboutit à quelque chose. C'est un sentiment. Ce sentiment-là, c'est quelque chose que tu peux pas commander. Il vient un moment, tu sens, il y a un déclic, tu sens que ça y est, c'est bon, j'ai pris le bon chemin. Et ben, ce déclic-là, c'est à 4 jours que tu as.
Ce mois, il est propice.
Voilà. Le mois des loups, il est propice pour ça. Pour te pousser à voir ce déclic, pour te dire, je suis dans le bon chemin. Donc, dans les mots.
Ce qui est difficile, c'est de rester sur ce chemin.
Bien sûr. David, je sais que c'est sur mon chemin, mais bon, le chemin. J'ai pas dit que c'est facile. C'est difficile. C'est très difficile. Mais au moins savoir que je suis sur le bon chemin et que je me plante pas, c'est déjà pas mal. Parce que bon, des fois, tu dis tellement en trébuche que tu dis finalement, est-ce que je suis sur la bonne voie, quoi? Est-ce que bon, je suis pas à côté de la plaque? Tu dis, quoi ça sert ce que je fais? j'essaie de faire teshuva, mais je vois que d'un autre côté, je fais des averot. Je me dis, est-ce que c'est pas un peu hypocrite ce que je fais? C'est des questions qu'on a posées au début du Tania, ça. Au début du Tania, il dit que le Yetzer Hara, une des manières de nous faire tomber, c'est de dire à l'homme, t'es un hypocrite. T'es un mytho. Tu as une face comme ça devant tout le monde et derrière, tu fais des bêtises. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai? D'accord, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde a sa face qui montre, qu'il y a des choses qui sont plus secrètes, qui ne montrent pas. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? De temps en temps, Dieu t'allume la lumière pour te dire, t'inquiète pas, je dis pas que t'as fait que des mitzvot, mais t'inquiète pas, tu es dans le bon chemin, continue comme ça. Ça, c'est la lumière de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Dans les mots. Vea Ezer, quelle est cette aide? Hi et Ahara Shemeir Or Hashem al Nefesh Elohit. C'est la lumière que Dieu éclaire l'âme divine, liotla itron ou shlita al sikhlut aksil ve yetzara, pour l'aider à avoir une supériorité, donc que l'âme divine ait une supériorité par rapport à la bêtise de celui qu'on appelle le bête et le yetzara, qui est itron haor mina chosher kanal, comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Ça veut dire quoi? Ça, il faut qu'on commente un petit peu. Le roi Salomon, il dit, vera iti ani, dans Michelet, d'accord, dans les proverbes, il dit, vera iti ani, moi, j'ai vu, donc qui moi, c'est-à-dire le roi Salomon, j'ai vu Itron, d'accord, Itron haor minachosher. Il dit, j'ai vu la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Alors le commentaire là-bas pose la question, ils disent, mais est-ce qu'il fallait être le roi Salomon? D'accord, non, excusez-moi, le terme n'est pas ça. Il dit, vera itiani, j'ai vu moi, Itron, chochma minachosher, que Itron haor minachosher. Voilà, c'est ça le terme. J'ai vu moi, le roi Salomon, la supériorité de l'intelligence par rapport à la bêtise, qui est comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Vous savez, c'est très crypté, les proverbes du roi Salomon. Le commentateur pose la question, il dit, mais il fallait le roi Salomon pour nous expliquer ça? Demande à n'importe quel enfant, tu lui dis, la lumière, l'obscurité, qu'est-ce que tu choisis? Il va dire la lumière. Et on lui regarde, un chmar et un intelligent, qui va choisir? Ben, un intelligent. Est-ce qu'il fallait le roi Salomon pour ça? Alors, vous regardez comment il explique ici la Gemara Zaken. Et ça, il explique ici très très bekitsour, il explique ici très court, il explique ça plus longuement dans la suite, mais on va quand même expliquer maintenant. Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi la chorma? Quand on parle d'intelligence, c'est quoi la chorma? La chorma, c'est ce qui se trouve dans la tête. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se trouve dans la tête? C'est quoi le siège de la tête? L'âme divine. C'est quoi ksil? C'est quoi l'imbécile? Quand on parle de l'imbécile, on voit que dans la Gemara et dans beaucoup dans le Nahr, on l'appelle Meler Zaken Uksil. Le Yitzhara, on l'appelle un roi vieux et bête. Il est bête. D'accord? Seulement, il te fait une bêtise qu'elle a l'air intelligente, mais il est bête. En vérité, il est bête. Alors le roi Salomon dit, en vérité, de quoi il parle ici? Il parle pas juste d'une personne intelligente, d'une personne bête. Il parle de nous. Il parle du côté intelligent qui est en nous, ça veut dire l'âme divine qui te pousse à faire les bonnes choses pour toi. Et du côté bête qui est en toi, c'est le Yetzer Hara qui te pousse à faire des choses que tu penses qui sont bien pour toi, mais qu'après coup tu réalises que c'est pas bien pour toi. Un, il est intelligent, l'autre il est bête. Bon, le problème c'est que quand les deux se présentent devant toi, le bête n'a pas l'air bête. Il a l'air très intelligent. Le Yetzer Hara a l'air très attirant. Et le Chacham, il a pas l'air tellement attirant que ça. Tu vois, il dit, bon, ok, il a pas l'air très intéressant. Alors, qu'est-ce que dit le roi Salomon? Le roi Salomon, il dit, vera itiani, moi j'ai vu que la supériorité de l'intelligence par rapport à la bêtise, ça veut dire de l'âme divine par rapport à l'âme animale, est comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. C'est quoi la différence entre la lumière et l'obscurité? Il dit, quand tu allumes la lumière, automatiquement tu te rends compte quand tu es dans l'obscurité. Ça veut dire comme ça. J'avais entendu une fois un machal du Rav Yoel Kahn, qui est un rav à New York, qui avait dit comme ça. Qui a dit, lorsqu'une personne se trouve dans l'obscurité, il est dans l'obscurité. Et t'essaies de lui expliquer qu'il est dans l'obscurité. Tu lui expliques, tu sais que t'es dans l'obscurité. T'as beau lui expliquer ce que tu veux, tant que tu l'as pas montré de la lumière, il comprend pas qu'il est dans l'obscurité. Pour lui, l'obscurité, c'est la lumière. Comme il dit là-bas le prophète, il dit que on transforme l'obscurité en lumière, parce que pour lui, ça, c'est la lumière. Comment tu veux lui faire comprendre qu'il se trompe? Il suffit d'allumer la lumière. Une fois. Et là, quand tu vois la lumière, il faut une fraction de seconde. Il va voir ce que c'est la lumière, il va dire, mais bien sûr, je suis dans l'obscurité. Est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de l'obscurité grâce à ça? Pas encore. Mais au moins, il sait où est la lumière. C'est la même chose qu'Akadosh Baruch Hu fait. Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, dans cette obscurité dans laquelle on se trouve, il t'allume la lumière. Pourquoi il t'allume la lumière? Pour te montrer, pour qu'à un moment, tu sentes que tu dis, là est l'intelligence, là est la bêtise. Faire des mitzvot, c'est intelligent, faire des averot, c'est bête. Il t'allume la lumière, après il éteint. Du fait qu'il t'a allumé la lumière, même une fraction de seconde, même une heure, même une minute, d'accord? Ça fait que quand le Yetzer Hara après te propose une avéra, au fond de toi, tu sais que l'avéra c'est une bêtise, et que c'est pas bien pour moi, même si ça m'a l'air bien. Ben ça, c'est une très très grande aide, parce que si on n'a pas cette aide-là, si à aucun moment dans ma vie Dieu me montre et me fait sentir où est la vérité, j'ai aucune manière de gagner mon Yetzer Hara. Donc en clair, le Yetzer Hara me pousse à faire des avérotes, ça part du cœur vers l'esprit. Le Yetzer Tov me pousse à ne pas faire de la avérote et donc éventuellement à faire des mitzvot, donc ça va de l'esprit vers le cœur, et je suis dans une obscurité, je ne sais pas quoi faire, il faut allumer la lumière. Qui sait qui allume la lumière? C'est Akadosh Baruch Hu, qui m'a allumé la lumière que quelques secondes pour me montrer où est la lumière. Et du fait même qu'il m'a montré où est la lumière, ça même, ça va m'aider à repousser mon Yetzahara plus facilement. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça veut dire que Dieu, il nous donne quelques instants de lucidité dans la vie, qui nous aide à voir plus clair, et qui nous aide à savoir où sont les bons choix. Et ça, c'est une aide extraordinaire, qui vaut tout l'or du monde.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je dois faire appel à ma volonté pour suivre cette flèche.
Oui, mais le problème, c'est que Dieu éteint la lumière tout de suite après.
C'est pas d'accord. Voilà. Si je l'ai vu la flèche, donc je dois faire appel à ma volonté pour
tout de suite.
Cette
bien sûr.
Sinon, c'est mort.
Et il éteint la lumière après. Et après, ça te donne de te dire, oui, je me rappelle que ça, en vérité, c'était lumineux. C'est très dur. Parce que tu vois plus la lumière, après. Tu vois plus. Et comme il dit, c'est le prophète Élisée, il dit que dans l'exil, Samim recherche les ors. On croit que l'obscurité est la lumière. C'est-à-dire que le mal a l'air le bien et le bien a l'air le mal. Il suffit de voir la dernière qui s'est passée en Israël. Hein.
C'était clair d'accord il y a un mois.
C'est-à-dire que c'était clair, devant nos yeux, on a vu ça. Et quand on fait le bien, eh ben, ceux qui font le bien, on te fait passer dans le monde qui font le mal, et ceux qui font le mal, on te fait passer qui font le bien. Mais c'est devant nos yeux, on l'a vu. Tu poses des questions, tu dis, mais c'est pas possible, ils voient pas. C'est pas des gens bêtes, c'est des gens intelligents. Ça, ça fait partie de l'exil. Dans l'exil, d'accord, Dieu a fait en sorte que dans l'exil, quand on est dans l'obscurité, on croit que la lumière est l'obscurité, et l'obscurité est la lumière. Mamache, on l'a vu de nos yeux, ça. Et ça, en vérité, il faut savoir, ça se passe en nous, ça aussi. Le Yitzhak, le Yitzhara. On te fait croire que la Vera, c'est kiffant, c'est le top, c'est le but, et que la mitzvah, ouais, bof, bon, c'est pas intéressant. Alors qu'en réalité, c'est le contraire.
C'est valable pour tout le monde, même pour
tout le monde, toute la vie.
Enfin, il y a autant de gens qui sont dans l'obscurité. Alors.
On est tous dans l'obscurité.
Non, mais on voit comment le bien.
On a déjà vu la lumière, en fait.
On le voit. On l'a vu par rapport à Israël.
On connaît la fin du film.
Mais dans notre vie intérieure, est-ce qu'on voit toujours le bien? Est-ce qu'on se rend compte toujours ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour nous? Pas forcément.
On le voit pas comme sans baigner dans la
des fois, on se rend compte, mais pas forcément. Pas forcément. Enfin, je vois, je fais des choses que, peut-être au fond de moi, je sais que c'est pas bien pour moi, mais concrètement, je lui dis, ouais, mais quand même, j'ai envie de faire ça.
Mais là, on l'a bien vu.
Là,
toi, tu l'as vu.
C'est passé pendant.
Toi, tu l'as vu.
Nous, on l'a vu, eux, ils l'ont pas vu.
D'accord, mais
comment mais pourquoi ils l'ont pas vu? Comment c'est fait qu'ils n'ont pas vu ce que nous, on a vu?
Je sais pas, ils sont aveugles.
Comment c'est possible?
Mais comment ça peut changer?
C'est des gens imbéciles?
Non,
c'est pas des racistes. C'est pas moi, je dis, c'est pas des racistes. Non, c'est pas des racistes. Non, c'est faux. Faut pas parler comme ça.
Ah si,
on le voit après.
Non.
On a peur des
je te promets qu'il y a des gens qui sont sincères. Mais qui, ils voient pas. Ils voient pas ce que tu vois. On n'a pas allumé la lumière.
Il y a quel point ils voient la lumière? Donc est-ce qu'ils attendent que nous, d'abord, on la voit bien pour qu'on la puisse.
Nous, on essaye de leur allumer la lumière de temps en temps. On essaye d'être comme Dieu sur ça.
Encore au niveau.
Je sais pas.
Peut-être
je pense que ça fait partie de l'exil, ça. Je pense que tant qu'on sera en exil, ça continuera comme ça. On aura quelques petites victoires par-ci par-là, mais tant qu'on sera en exil, ça continuera comme ça.
Il faut rentrer,
non? Je sais pas. Tant qu'on est en église, ça s'arrêtera pas. Regardez, c'est pas bon. Moi, je suis encore jeune et il y a des gens qui sont peut-être un peu plus âgés que moi qui savent que voilà, c'est toujours les mêmes problèmes. Et on essaie de faire attention et on nous critique. Et
tant qu'il y aura des Arabes, on
continuera.
Non,
mais c'est aujourd'hui, c'est les Arabes, mais avant, c'était pas les Arabes.
Comment tu peux expliquer que l'ONU, d'accord, l'ONU qui a été créée après la Shoah justement pour protéger ce genre de situation, se retrouve justement à elle, d'accord, à elle nous attaquer pratiquement sur. Je crois qu'il y a 70% de résolutions qui sont anti-Israël. Comment c'est possible?
Une majorité de pays arabes.
Bon, on va faire la parenthèse. En tout cas, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, donc on a essayé de rajouter quelques éléments par rapport à la dernière fois. Ce qu'on a expliqué, c'est que l'âme divine et l'âme animale sont comme deux juges, d'accord? Pourquoi on les appelait juges? Parce qu'un juge dit son point de vue sans pour autant que la décision finale sera comme ce qu'il a dit. D'accord? Et le troisième juge, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu m'aide? Akadosh Baruch Hu m'aide en allumant la lumière.
Une question.
Oui. Allez-y.
Le Benoni, celui qui est pauvre, il est considéré comme mort.
Non, Benoni va être très riche.
C'est une histoire, non, c'est une histoire de Yaakov, qui est ça?
Oui. Non, il peut être très riche.
Il a été poursuivi par son frère, il dit j'ai plus rien.
Là, quand il a employé le terme pauvre ici, d'accord, c'est dans le sens pauvre contre son Yetzara, qui a du mal à se battre avec son Yetzara. Qui a pas de capacité.
Pas comme un, considéré comme
non, 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 non. Non, il a les moyens, pas de problème. Bon, pourquoi pas? Amen.
C'est que même si comme ça, il peut juger.
Oui.
Pas sûr.
Oui.
Donc, une fois qu'on a pris conscience qu'il faut le troisième jugement, l'aide divine,
oui.
On peut la solliciter à n'importe quel moment.
Alors, c'est une très bonne question.
On peut demander à qu'il allume plusieurs fois dans la semaine, dans la journée, ou dans l'année.
C'est une très bonne question. Je répète la question. Très bonne question. Je vais pousser un peu plus loin la question. D'abord, je répète votre question. J'ai posé une question, il a dit, est-ce que cette aide divine, on peut la demander? Est-ce que, et quand elle intervient, est-ce qu'elle vient une fois par mois, une fois par semaine, etc. Je vais pousser un peu plus loin la question. Quand vous avez des gens qui vont voir un tzaddik pour lui demander une bracha pour réussir dans le service de Dieu, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ça?
C'est bon ou pas, c'est pas
bon. Attends, expliquez. D'un côté c'est bien, parce que bien sûr t'as envie de réussir, et t'as envie de gagner un peu quand on est tzara. Mais d'un autre côté, si Dieu m'a créé comme ça, avec ces challenges, c'est que le but de Dieu, c'est que je combats ces challenges et que je les accomplisse. Pas que je demande de l'aide pour qu'on fasse le boulot à ma place. Je vais vous dire à quoi ça ressemble. C'est comme si vous avez votre enfant, voilà, il est à la rentrée des classes, d'accord? Il rentre, il revient de l'école, il dit « Papa, fais-moi le devoir ».
Non, c'est pas ça. Non,
pourquoi c'est pas ça? Attends. Pourquoi c'est pas ça?
Aide-moi. C'est pas fais les devoirs.
Alors, très bien, ok. Aide-moi à faire le devoir. Qu'est-ce que tu réponds?
Oui,
tu penses qu'il peut le faire seul?
Essaye d'abord, t'arrives pas encore.
Ah, qu'est-ce qu'il lui répond?
D'accord.
C'est très difficile. Alors sachez que dans le monde hassidique, c'est une grande marloquette. Deux approches complètement différentes. Il y a l'approche des Russes et l'approche des Polonais. Hein, parce que bon, c'est deux. Non mais sérieusement. L'approche des Polonais, de hassidique polonais. Ouais. Non mais bon, après c'est les deux mondes hassidiques. D'accord. C'est deux grands courants. D'accord. Le courant polonais, eux ils disent, nous ce qui compte c'est qu'il faut faire un maximum de mitzvot. Et le moins d'avérantes possible. Maintenant, qu'on prenne l'aide d'un tzaddik, qu'on prenne l'aide d'Akadosh Baruch Hu, toutes les aides sont bonnes à prendre. Voilà. Donc eux ils disent, on va avoir 10 tzaddikim, tu leur demandes de l'aide toute la journée, tant que tu gagnes, ça va, continue, demande.
C'est bon.
C'est une approche qui tient la route, qui te dit, ce qui compte c'est quoi? C'est de gagner. Eh ben, si tu vas gagner une fois, tu vas gagner encore plus, c'est de Mazal Tov, tu vas gagner encore plus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça te dérange? Tu vas faire du chiffre, qu'est-ce que ça te dérange? Ça c'est l'approche des chassidim polonais. L'approche des chassidim russes et l'approche rabat correspond plus à cette deuxième approche, elle te dit non. Elle te dit, le but c'est pas de faire du chiffre. Le but, c'est de réussir le challenge que Dieu t'a demandé. Donc quand tu vas voir un tzaddik, tu lui demandes une bracha. Quand c'est quelque chose que bon, une personne est malade, etc., que bon, elle a besoin de s'en sortir, c'est une chose. D'accord? J'arrive.
Avec le monde
j'arrive au bout du raisonnement. Mais il te dit, lorsque tu as un challenge, d'accord, une personne par exemple, je vous donne un exemple qu'ils amènent, hein, il dit une personne qui a du mal avec, il a des difficultés par exemple avec des pensées par rapport aux femmes. Et qui dit, un tzaddik, il dit, fais que j'ai plus de pensées. Qu'est-ce qu'il veut leur répondre au tzaddik? Le tzaddik veut lui répondre, il dit non. Je veux pas te bénir une bracha comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été conçu comme ça. Et c'est le challenge que je t'ai donné de surmonter ça. Et chaque fois que tu vas surmonter cette avéra, tu fais une mitzvah. Donc ton challenge, c'est pas que je te supprime ça. On va pas te supprimer ça. On va pas te castrer, excusez-moi du terme. D'accord?
On n'a pas parlé de ça.
Mais c'est vrai? Alors c'est la même chose. Alors, bon, j'ai poussé, hein, j'ai fait un peu une caricature, j'ai poussé un peu plus loin.
T'as poussé loin là.
J'ai poussé très loin.
Non. Pas ça, je sais. Ça, il le dit pas, il le demande pas, ça, il le fait quand même.
Mais c'est comme toujours. Pour comprendre, il faut toujours faire pousser dans les extrêmes. Donc c'est un peu les deux approches. Et de qui on tient cette approche du mouvement Chabad qu'on dit que on demande pas un bracha à un rabbi pour réussir dans le service divin, à moins que on vraiment craque. On tient ça du troisième rabbi de Lubavitch.
Il donne des brachot à tout le monde.
Justement, j'arrive.
Dans la rue, je mets les thèmes,
mais... Oui, ça n'a rien à voir.
Pourquoi?
Jamais on demande brachot au rabbi. J'arrive.
Non, mais
c'est, on tient ça du troisième rabbi de Lubavitch, le rabbi de Saint Martzedek, qui disait comme ça, d'accord, qui disait Tirbad ha'avoda al-anshim al-anashim ve'al-ishu bedivrei shaker. On tient ça de Paro, d'accord. Si la Torah nous raconte de Paro. D'accord? Le Midrash, il dit qu'en vérité, de Paro, on peut tirer les enseignements. Qu'est-ce que Paro avait dit? Lorsque le peuple a commencé à dire, oui, le travail est trop difficile, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'a dit Paro? Paro a dit que le travail soit dur sur les gens et qu'il ne compte pas sur des paroles mensongères, sur des bêtises. Ça veut dire que, qu'il n'y ait pas de faux espoirs. C'est ce que Paro a dit. Paro a dit, enlevez-leur les faux espoirs, qu'ils pensent qu'ils vont sortir un jour que ça va être plus facile, enlevez-leur les faux espoirs et montrez-leur que le travail est difficile. Alors, de mémoire, je crois que c'est un Zohar qui dit. Il dit que de là, on apprend qu'il y a une particularité, il y a une beauté, lorsque la personne comprend que ça ne sert à rien de rentrer dans des illusions. C'est-à-dire, tu vas venir voir un tzaddik, il va donner une bracha, elle va marcher une semaine, deux semaines, et toi tu vas dans les illusions, tu crois que tu deviens un tzaddik. Alors qu'en vérité, rien du tout, ça n'a pas changé. L'approche du rabbi de Saint-Marcellet qui disait, c'est mieux de laisser la personne se combattre dans son challenge, et de se connaître personnellement et progressivement d'avancer, que de lui faire des grandes avancées qui en vérité ne sont pas des avancées. C'est ce qu'on appelle, dans les mots du Tanya, derer, arucha, ou ktsara. Alors, on va revenir à une idée qu'on avait expliquée au tout début du Tanya, pour ceux qui étaient là, c'est bon, ça fait quand même presque un an, là. Derer, arucha, ou ktsara, c'est un chemin qui est long, mais qui est court. Vous vous rappelez l'histoire?
Ah oui.
D'accord? Il y avait un rave, qui était dans un chemin, et à un moment, il y avait une intersection. Il y avait un jeune enfant qui était assis à côté de cette intersection, et il lui a dit, le rave demande au jeune enfant, il lui dit, donne-moi la route, pour aller à telle ville, à la ville où vous voulez aller. Et l'enfant répond, il dit, à droite, c'est le chemin court et long, à gauche, c'est le chemin long et court. Bon, lui, il a entendu lequel vous aurez choisi. Il a entendu le chemin court et long. Il a dit, court. Il a pris court. Il a pris à droite. Donc effectivement, oui, il a entendu le mot court et long. Il a dit bon, court. Il a entendu court. Il est parti court. Il avance. Il voit un chemin plein d'embûches. Effectivement, il voit la ville. Il la voit. Il y a des embûches. Il y a des champs. Il y a des marécages. Enfin, une galère. Et tellement il y a des galères qu'il est obligé de rebrousser le chemin. Il revient à l'intersection. Et il voit l'enfant. Il lui dit, tu m'as dit qu'il est court ton chemin. On n'arrive pas. Il dit, je vous ai dit, il est court, mais il est long. Il dit, l'autre chemin, il est long. D'accord ? Il y a plus de chemin. Mais il est court. C'est comme dans le GPS. Ouais, il dit le chemin le plus rapide ou le plus court. Ah ouais. Et des chemins, des fois, tu fais 10 km de plus, mais tu arrives plus vite. Voilà, donc, parce que ça marche. C'est un chemin, il est droit, il n'y a pas d'embouteillage, tu vas y arriver. Ça veut dire quoi ? Et ça, c'est l'approche de la Chassidut Rabban. Dans l'introduction du Tanya, la première ligne du Tanya, Morazaken dit que le Tanya, c'est derer Arucha Uktsara. C'est un chemin long, mais court. Ça veut dire qu'on va pas être là pour créer aux gens des fausses illusions, leur faire croire qu'ils avancent alors qu'en réalité rien du tout. C'est pas l'approche. Notre approche est que d'apprendre à se connaître et d'avancer pas par pas sans chercher des aides suprêmes, etc. De prendre les choses pas par pas et de se connaître. De temps en temps, Dieu t'allume la lumière pour te montrer la vérité, mais personne fera le boulot à ta place. Ça n'existe pas. D'accord? Personne fera le boulot à ta place. Ça te de faire le boulot. C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que la seule chose qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de temps en temps de nous allumer la lumière pour nous montrer qu'on est dans le bon chemin. Mais tout le boulot, c'est moi qui le fais, personne fera le boulot à ma place. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Que, il y a les approches qui disent, il faut demander un maximum d'aide, il y a les approches qui disent, d'accord, faut pas demander de l'aide, il faut avancer, il faut travailler, et le peu que tu as, c'est mieux que beaucoup qu'on va te donner. Il y a aussi un autre endroit, dans la Gemara, où c'est écrit que Adam rotse bekav shelo, yoter, mitishara kabin, shel chaveron. D'accord? La Gemara, elle dit, je sais plus dans la Gemara Abraham, dans quelle Gemara c'est ça? Alors, il y a une Gemara qui dit comme ça, qui dit qu'un homme préfère une mesure à lui que 9 mesures à son ami. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Des fois, tu vas chez les gens, t'as une personne, il a fait un tableau. Honnêtement, le tableau, il est moche. Il t'a vu mon tableau, avec grande, grande fierté. Alors, tu dis, mais pourquoi il va pas acheter un tableau? Parce que ce tableau, c'est lui qui l'a fait. Tu préfères avoir une mesure à toi que 9 mesures à quelqu'un d'autre. Quand c'est toi qui l'a fait, cette mesure-là, elle vaut plus que 9 mesures. Et la Gemara ne dit même pas combien plus. C'est-à-dire, c'est possible que ça vaut 100 fois plus, 1000 fois plus, ça précise même pas. Ça veut dire que tu préfères une mesure à toi que neuf mesures à quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Quand on avance dans le service de Dieu, tu peux avoir un tzaddik qui va donner des brachot et c'est lui qui fait le boulot à ta place. Bon. Ça, c'est 9 mesures de ton ami. C'est pas ça ce qu'on veut. Moi, je veux une mesure, mais à moi. Que je chante que c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui ai avancé, et bon, j'ai trébuché, mais c'est moi qui l'a fait. Ça, c'est beaucoup mieux. Et ça, de manière générale, c'est l'approche d'éducation qu'on a poussé les enfants à avoir une mesure à soi au lieu de leur donner 9 mesures et dire, voilà, je fais le boulot à ta place. C'est l'approche en général, c'est ce qu'il dit ici. Mais de temps en temps, il faut leur allumer la lumière pour leur donner des petites lumières pour dire, voilà, bon, tu réussis, c'est bien ce que
mais
tu fais.
Mais demander une bracha, c'est pas faire le boulot à la place de l'autre.
Alors ça dépend.
Tu demandes une bracha, c'est pas parce que...
Donne-moi un exemple, tu demanderas pourquoi.
C'est un encouragement.
Pourquoi je demande une bracha?
C'est autre chose que...
Pourquoi, alors, je te donne un exemple.
Je sais pas, c'est une question.
Une personne, par exemple, il a du mal à se lever le matin pour aller à l'office. D'accord? Je prenais une plus soft, t'as dit plus soft. D'accord, voilà. D'accord? Il a du mal à se lever pour les sklirot. Alors, il va écrire une lettre au Rabbi, il va dire, Rabbi, aide-moi à me lever pour les sklirot. Moi, je dis faux, c'est pas bon. Oui, mais c'est pas son rôle, le Rabbi, t'aider à venir aux sklirot.
Bah oui, d'accord.
C'est pas son rôle. C'est toi de te bouger, de te décider.
Oui, on est d'accord.
Alors, si le Rabbi, alors maintenant, je vais te dire, tu iras demander une bracha à un tzaddik, et t'as donné une bracha à un tzaddik, et tu seras tous les jours aux sklirot. Si tu vas aller le voir, tu vas dire, donne-moi un bras pour le je vais faire comme ça.
C'est pas sûr.
Il va te booster. Tu seras tous les jours au sklirot. Mais c'est pas toi qui étais au sklirot, c'est lui qui était au sklirot.
T'as pas le mérite.
C'est lui qui était, c'est pas moi qui étais au sklirot. D'accord?
Mais il existe quand même, il a le mérite quand même.
Tous les matins à 7h, il a pas le mérite.
T'as vu ça? Ah si, t'as quand même le mérite, malgré tout.
Tu as le mérite, mais on t'a boosté.
Oui, mais ça veut pas dire que...
T'as été dopé, comme les sportifs.
Mais demander une bracha, c'est plus spirituel, c'est peut-être pour du travail, pour la santé, pour le...
Okay.
Le lever le matin, c'est... Bon, c'est
je pense que la clé de la solution,
une bracha, c'est différent.
Et que il faut toujours savoir faire le juste milieu entre accepter les challenges de la vie, et que il y a des choses pour lesquelles ça sert à rien de demander des brachot.
Oui, on est d'accord. Moi, d'accord.
Et quand c'est des choses qui sont exceptionnelles, là, on demande des brachot.
Oui,
Et quand c'est des challenges normaux de la vie,
ouais,
d'accord,
c'est dans ce sens-là, oui.
Voilà, c'est pas la personne chaque fois qui va s'accrocher avec sa femme, il va demander une bracha à un tzaddik.
Ouais.
Quand ça arrive tous les jours, toute la journée, bon, là, on peut comprendre qu'il a besoin d'aide. Mais l'approche de la Chassidut Rabban, elle te dit que tant que c'est standard et que tu sens que bon, c'est la course de la vie normale, faut pas demander une
bracha.
Il faut avancer normalement. Et ça, c'est ton but. Ok? Bon. Maintenant, on va revenir au Benoni. Ah, cependant. Et là, on va parler au Benoni, parce que rappelez-vous, le Benoni, finalement, là, si avant c'était une star, là, c'est une superstar. Pourquoi? Parce que avant, qu'on a expliqué que le Benoni, il avait son Yetzara, qui le jugeait d'un côté, le Yetzara qui le jugeait d'un côté, et qu'après Dieu a allumé la lumière. Et puisque Dieu a allumé la lumière, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors dans ce cas-là, il a envie que de faire que du bien. Hein. Donc c'est possible que ce Benoni-là, pendant des années, il va rester comme ça. Pendant des années, il va rester qu'il voit où est la lumière, et il faut de plus. Alors il va se dire, peut-être je suis devenu tzadik, ça y est, je suis tzadik maintenant. C'est là qu'il dit, attention, tu n'es pas devenu tzadik. Pourquoi? Ah, cependant, mais achar, shahara, shebechalal, asmali, babenoni. Vous avez dans les mots? Dans les mots? 180. Page 180. Voilà, l'étude du 25 TV.
Page 35.
Ah, cependant, mais achar, shahara, shebechalal, asmali, babenoni. Ou betokpo, ketud lato.
Page 180.
Puisque le mal, 180. D'accord? Le mal, qui se trouve du côté gauche chez le benoni, est toujours présent, il est toujours là. C'est vrai qu'il ne se réveille pas parce que Baruch HaShem, Dieu lui a donné une aide, et que maintenant, il a la lumière qui s'est allumée, et que maintenant, il voit que c'est une bêtise de faire une Avera, et qu'il faut faire des mitzvot. Mais il dit, attention, monsieur Benoni ne te prend pas pour un tzadik. Et ça, c'est très important, ça, cette phase-là. Pourquoi? Parce que si le Benoni se prend pour un tzadik, et qu'il pense que ça y est, c'est fini, il a réglé le problème, et que maintenant, son Yetzara ne le dérange pas, le jour où son Yetzara lui envoie une petite pensée, il va s'écrouler. Il s'attend pas. Il s'y attend pas. Par contre, lorsque tu t'y attends, tu dis, bon, Dieu m'a donné maintenant une période de grâce. Il me laisse tranquille, maintenant, quelques semaines, quelques mois. Il me laisse tranquille. Donc tu traces. Pas de problème. Mais au fond de toi, tu sais que la pétard rata drovet, ça veut dire que le Yetzara m'attend à la porte et qui reviendra. C'est sûr qu'il reviendra. Quand tu sais ça au fond de toi, alors quelque part, tu t'y attends. Et le jour où ça arrive, tu vas pas tout tomber comme un château de cartes et te dire, ah, ben, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, c'est du bluff. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est très important pour le Benoni de se rappeler que même si concrètement je ne faute pas maintenant, ça ne veut pas dire que la Vera n'est plus là. Je pense qu'on peut appliquer ça aujourd'hui, parce que bon, Benoni, il y a très peu de gens qui sont Benoni, à une personne qui fait Teshuvah. Et que le mal qu'il a fait avant, il a oublié. D'accord? C'est-à-dire qu'avant, il faisait des bêtises. Bah, au tellement il a fait Teshuvah, que les bêtises qu'il faisait avant, voilà, avant, il passait ses nuits en boîte de nuit, etc. Maintenant, il repasse devant une boîte de nuit, il a envie de vomir. Bah, tellement il est écœuré. Il dit, ah, bah, t'as vu quel Teshuvah? Mais il n'a même pas envie de rentrer. Il croit que ça y est, c'est fini, il est venu de tzadik. Dis, attention, t'es pas de tzadik. Et bon, Dieu t'a donné une période de grâce de quelque temps, mais ça peut revenir. Tu peux avoir un jour avoir envie de rentrer. Et, alors si tu t'y attends pas, tu vas tout tomber. C'est pour ça qu'il dit ici. Il dit qu'en vérité, le Benoni doit savoir qu'au fond de lui, ou betokpo ketol dato, le Yetzara qu'il a au fond de lui est au moins aussi fort que ce qu'il y avait avant. Au moins aussi fort. Si ce n'est peut-être plus fort. Pourquoi? Parce que quel est le moteur du Yetzara? Le Yetzara a besoin d'informations. Il lui faut un maximum d'informations pour pouvoir générer des pulsions, des envies, des imaginations. Donc, entre-temps, depuis que le temps que j'ai fait Teshuvah jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être eu d'autres informations que pour l'instant, au moment où ça s'est passé, j'ai pas fait attention à ces informations-là. Pour moi, c'est passé comme ça. Mais le Yetzara, il les a pas oubliées, ces informations. Et tout d'un coup, le jour où il a décidé de t'attaquer, il a pris différents angles, pac, il te ressort, d'abord avec la base de ce qu'il y avait avant, en rajoutant tout ce que tu as appris. Donc, il te dit, il est au moins aussi fort que ce qui était avant. Seulement, t'as des périodes de grâce. Bon, pas au Hachem. Le mal du Yetzara ne sera jamais batel bemiout, ça ne sera jamais annulé en tant que minorité, le gabé arov par rapport à la majorité. D'accord? Sauf si il est devenu tzadik. Quand une personne devient tzadik, alors normalement ça.
Il dit qu'on pouvait pas devenir tzadik.
Alors très bien, non, mais... j'arrive.
C'est dit qu'on était créé
de Vex, ce... alors Vex, ça c'est le thème du chapitre 15. Chapitre 15. On va expliquer que par définition, normalement, un tzadik naît tzadik. Ça ne veut pas dire qu'il naît tzadik, ça veut dire qu'il naît avec la capacité de devenir tzadik. C'est un moteur qui est conçu pour. Celui qui n'est pas conçu pour ça, normalement, ne peut pas devenir tzadik. Ça veut dire qu'il ne peut jamais éteindre son Yetzara. Mais, et ça, c'est important. On va expliquer dans la suite, dans le chapitre 15, que 14 et 15, que même si une personne ne peut pas devenir tzadik s'il n'est pas conçu pour ça, on peut demander à Dieu de faire une greffe. Une greffe. Une greffe. Il emploie ce terme, hein. Ibour. D'accord? Ibour, ça veut dire, une greffe. De me greffer une échamale à un tzadik. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on a toujours espéré être un tzadik. Toujours. Il faut toujours viser très très haut. Tu dis, mais comment tu peux, à quoi sert de viser quelque chose que tu obtiendras jamais? Tu peux obtenir. C'est possible. Mais, c'est pas grave. Pour l'instant, on va parler du Benoni. Celui qui ne deviendra pas tzadik. Il te dit, c'est pas grave. Juste, même si maintenant, concrètement, le Yetzara ne te dérange pas, sache que ton Yetzara est toujours là, et qu'il est aussi fort qu'avant, et que au moins aussi fort qu'avant, et qu'en vérité, il est encore plus fort qu'avant, et il risque de t'attaquer. Donc, attends-toi à ça, et quand tu t'y attends, automatiquement, tu sais comment t'y prendre beaucoup mieux que d'habitude. Vélo nitré mimkomoklal. Le Yetzara n'a pas changé de place, il est toujours à la même place. Il est toujours à la même place, il est toujours aussi fort, il n'est pas été annulé par rapport au bien, il est toujours là, il est présent. Rak seulement. Sauf que, comme le Beluni a été intelligent et qu'il a su, d'accord, par différentes techniques, ne pas laisser le Yetzara s'exprimer, alors maintenant le Yetzara n'arrive pas à prendre le contrôle de son corps, grâce à l'aide de qui bien sûr, grâce à l'aide de Akadosh Baruch Hu, Mipnei Akadosh Baruch Hu, Aomed Liminavion, Veozer ou Meir la Nefesh Elokit, parce que Dieu se tient à la droite de celui qui est pauvre. Donc c'est le Benoni, et que Dieu aide et éclaire l'âme divine, la reine Nikra Keracha. Ah, voilà où je voulais arriver. Voilà pourquoi maintenant on comprend que le Benoni est appelé comme un rachat. Là en vérité on revient à ce qu'on avait expliqué au tout début du Tania. On avait dit que même si tout le monde te dit que tu es un tzadik, à tes yeux tu dois te considérer comme un rachat. Et on a posé la question, on avait dit, la Morazaka a posé une question, on avait dit, mais ça veut dire quoi comme un rachat? De deux choses l'une. Soit je suis un rachat, alors je suis un rachat. Soit je ne suis pas un rachat. Alors pourquoi est-ce que je me considère comme un rachat? Si je me considère comme un rachat, je vais déprimer. Si je me considère comme un rachat et qu'au fond de moi, je sais que je ne suis pas un rachat, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, la notion de rachat va être négligée à mes yeux, puisque pour moi, être rachat, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Donc ça veut dire quoi quand on te dit, même si tout le monde te dit t'es un tzadik, toi, à tes yeux, t'es comme un rachat. En d'autres termes, je vais essayer de simplifier un peu. Ça veut dire, tout le monde te dit, tu es le religieux de la famille. Ah, le religieux, le religieux, le religieux. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, à tes yeux, tu dois être comme un rachat. Non, je ne suis pas un rachat, pourquoi tu es comme un rachat? Imaginez qu'on va te dire, tu dois te prendre comme un rachat. Non, je ne suis pas un rachat, je suis désolé, j'accepte pas. Pourtant, c'est la Mishnah qui le dit. La Mishnah de Pirkei Avot qui dit, Eyeh ben Rachat Rachat. Avec ce qu'on vient d'expliquer, on comprend. C'est-à-dire quoi, soit à tes yeux comme un rachat? On n'a pas dit, soit à tes yeux un rachat. Soit à tes yeux comme un rachat. Ça veut dire quoi? C'est vrai que maintenant tu fautes pas et que maintenant tu es comme un tzadik. Mais à tes yeux, soit comme un rachat, ça veut dire comprendre qu'en vérité, au fond de toi, tu as encore un Yetzara qui est aussi fort qu'avant, si ce n'est aussi fort qu'avant, même, il est même plus fort qu'avant. Et que, automatiquement, tu as un Yetzara comme un rachat. Et que ce Yetzara peut t'attaquer. Tu n'es pas un rachat. Tu n'es pas un tzadik, non plus, mais tu n'es pas un rachat. Tu es même comme un tzadik. Mais tu es comme un rachat dans le sens que le Yetzara peut toujours t'attaquer. Donc c'est, il y a deux leçons ici. D'abord, il y a une leçon d'humilité. D'accord? Tout de suite. C'est-à-dire, te dire, bon, te prends pas pour ce que tu n'es pas. Mais une deuxième leçon. C'est savoir se préparer. Savoir se préparer aux différents challenges que le Yetzara peut m'envoyer. Maintenant, on comprend mieux. Il dit, tout le monde te dit que tu es comme un rachat, toi, dans ta tête, tu dois être comme un rachat. Concrètement, ça veut dire quoi? Tout le monde te dit dans la famille, tu es le religieux de la famille. Toi, dans ta tête, tu dis, ils me disent que je suis le religieux de la famille. Mais en vérité, dans ma tête, je me dis que je suis comme un rachat. Pourquoi je suis comme un rachat? Parce que je me dis qu'en vérité, je peux retomber aussi rapidement que je suis monté. Dans ma tête, je dois me le rappeler, ça. Pas pour me déprimer, mais pour me mettre en garde. Keracha comme un rachat. Dans les mots ici. Donc, la chan nikra keracha. Kemahama rabotenu zichonam livracha. Comme le rachamim disent. D'accord? Donc, c'est écrit que afilu kol haolam kulom rimlecha tzadikata. Même si le monde entier te dit, tzadikata, t'es un tzadik, ils te prennent pour un tzadik. Eye benecha keracha. À tes yeux, tu dois te considérer comme un rachat. Velo racha mamash. Mais c'est pas qu'il soit mamash un rachat, parce qu'il n'est pas rachat. Alors seulement quoi? Et là seulement, chez Yachazik Atzmo le Benoni. Il faut qu'il se prenne comme un Benoni, ça veut dire quoi? Velo le amin le aolam shomrim shahara shebonit batel gabeatov. Ne pas croire aux gens qui parlent sur toi et qui te disent, mais t'as vu celui-là? Celui-là, il a tué son Yitzhara, il a plus de mal. Il te dit, non, ne crois pas ça. Ne crois pas ce que ces gens te disent. Au fond de toi, tu dois te dire qu'en vérité, c'est toujours aussi fort qu'avant. Chez Zomadrega Tzadik, que ça c'est le niveau du Tzadik. Et là seulement. Yebenav, il faut qu'il soit à ses yeux, et on va s'arrêter avec ça ici. Keilu ma'uto ve'atzmuto shalara ou betukfo ou bikvorato bechalal asmeni ketonato. À mes yeux, ça doit être clair, comme si que le Yetzara est aussi fort qu'avant. Velo chalav fe'alach menu ma'uma, et qu'il n'est rien parti du Yetzara. Ve'adaraba, au contraire. Nitrazek yoter, il s'est renforcé encore plus. Be'em shechazman, avec le temps. Avec le temps, tellement on a mangé, on a bu, et qu'on a cherché à avoir d'autres plaisirs, avec toutes ces choses-là, le Yetzara est devenu encore plus fort, et devenu encore plus fort qu'avant. Alors, je voudrais maintenant rajouter encore un autre point. Vous vous rappelez? Oui. Vas-y. Et Racha. Oui. Mais il y a des choses sur lesquelles on est Benoni. Il y a des choses sur lesquelles on est Benoni. des éléments sur lesquels on a fait teshuva.
Donc, en fait, c'est pas Benoni, Tzadik ou Racha, ça caractérise pas une personne.
Alors, si tu veux, Benoni, c'est une note générale. Il y a Tzadik, Racha, Benoni, c'est une note générale. Mais après, quand tu rentres dans les détails, comme dans les matières à l'école, d'accord ? Il y a des matières dans lesquelles on peut être Tzadik, des matières dans lesquelles on peut être Racha, des matières dans lesquelles on peut être Benoni. Mais après, t'as une note générale. Mais on peut être Benoni sur certaines choses. Et c'est important à comprendre ça, ce qu'il dit ici. Ça veut dire que tu peux, pourquoi on te dit que tu sois comme un Racha ? C'est-à-dire que même si au niveau de la pratique, tu es irréprochable et que vraiment les gens te prennent pour un tzaddik et tu as toutes les raisons de penser que tu es un tzaddik, tu dois savoir qu'en vérité, tu risques de retomber aussi rapidement que tu es monté. Avec ça, on va expliquer la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez, au début, on avait expliqué qu'il y avait un grand maître qui s'appelait Rava. Il y en a qui disent c'est Rabba. Bon, Rava ou Rabba. Et est-ce que c'est deux maîtres différents? Et la Gemara raconte qu'une fois, au Beit HaMidrash, il y avait une discussion, il parlait justement qu'est-ce que c'est le Tzadik, qu'est-ce que c'est le Racha, qu'est-ce que c'est le Benoni. Et Rabba a dit, Kegon Ana Benoni, il a dit, moi je suis Benoni. Alors Abaye, qui était son élève, enfin, ou son élève ou son ami, parce que selon les versions, si c'est Rabba ou Rabba, il lui a dit, mais si toi tu es Benoni, nous on est quoi? On est Racha, donc si tu nous as tous tués, parce qu'un Racha est considéré comme un mort dans la Torah. D'accord? Alors la question que la Gemara Zaken a posée, il a dit, mais comment Rabba a pu se considérer comme un Benoni? S'il se considère comme un Benoni, ça veut dire quoi? Il laisse entendre qu'il faute, il sait très bien qu'il faute pas. La Gemara a dit que Rabba tellement il fautait pas, que même l'ange de la mort, lorsqu'il voulait le tuer, il a dû faire un stratagème pour qu'il arrête d'étudier parce qu'il n'arrivait pas à l'attraper. Parce que tant que tu étudies, il ne peut pas t'attraper. D'accord? Il a fait un truc avec les armes, etc. Bon, la Gemara raconte, mais ça veut dire qu'on parle d'une personne ici que tellement il étudiait, qu'il n'avait même pas le temps de s'arrêter et que même l'ange de la mort n'arrivait pas à l'attraper. Ça, c'est à la fin de sa vie. Donc, il n'a jamais fauté, alors c'est vrai qu'il est comme un Benoni. Là, on a la réponse. C'est quoi la réponse? C'est que finalement, au niveau concret, au niveau de la pratique, quelle est la différence entre le Benoni et le Tzadik? Aucune. Les deux ne fautent pas. Et c'est possible que le Benoni, en vérité, il ne se rend même plus compte qu'il a un Yetzara. Il croit qu'il a plus de Yetzara. Attendez, laissez-moi arriver au bout du raisonnement. C'est très possible que le Benoni, dans cette période de grâce qui peut durer des années, il croit qu'il a plus de Yetzara. Donc au niveau de la pratique, c'est la même chose. Mais pourquoi Rabba disait Kegon Ana Benoni, moi je suis Benoni? Parce que Rabba se rappelait constamment que même si concrètement le Yetzara ne m'attaque plus, ça ne veut pas dire pour autant que je suis sadique. Je me dis que peut-être un jour il reviendra, et il reviendra aussi fort qu'avant, et encore plus fort qu'avant. Voilà pourquoi Rabba, en leçon d'humilité, lui disait je ne suis pas sadique.
Pourquoi un sadique ne sait pas qu'il est sadique?
Un sadique ne se dira jamais je suis sadique.
Ah d'accord.
Voilà.
Mais un sadique ne sait pas qu'il est sadique.
Certainement qu'il le sait. Mais c'est quoi un sadique? C'est qu'il sent que le Yetzara ne l'attaque plus. Et ce qu'il te dit ici, c'est que c'est pas une preuve. Tu peux avoir une période de grâce et en vérité, après, il peut revenir. Pour simplifier les choses, ne parlons pas de Tzadik Racha Benoni, on va parler de religieux. Une personne qui est religieuse, ça y est, il est religieux maintenant. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est Tzadik, hein, mais il est religieux. Tu dis non.
Donc finalement, tu sais à la fin des comptes que si tu es Tzadik ou non.
C'est seulement, tant que tu n'es pas parti de ce monde, tu ne sais pas ce que tu es.
C'est ça, d'accord. Okay, c'est ça. C'est ce que je comprends.
Tant que tu n'as pas le résultat des courses, tac, écrit. D'accord. Alors juste deux secondes, attendez, j'écoute les questions d'abord deux secondes.
Comme le rabbi ou d'autres personnes aussi sages que lui savent déjà à l'avance qu'ils sont.
Le rabbi c'est un tzaddik. Mais si tu lui demandes à lui est-ce que tu es tzaddik, je ne sais pas s'il a répondu je suis tzaddik. Je pense qu'il a répondu non, je ne suis pas tzaddik. Il y en a eu plein d'histoires comme ça avec Mara. Oh, je ne suis pas tzaddik. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'au fond de lui, il se dit ça. Hein. Comme ça, c'est une manière pour lui de se préparer contre Yetzara. D'accord. Alors, juste avant de passer à la suite, donc on a Marcel, notre ami qui s'occupe du buffet qu'on a tous les, de l'apéritif qu'on a tout le cours d'Italien. Donc on a une caisse spéciale pour le cours d'Italien. La caisse est vide, donc ceux qui veulent, enfin presque vide, voilà. Ceux qui veulent participer pour la remplir, et Marcel s'occupe chaque semaine d'acheter, faire un stock, etc. T'as voix à l'avoir. Voilà.
J'ai deux informations à vous donner. Tu pourras faire le Shabbat de Fochilima pour
oui. Monsieur Kassadi. Oui, bien sûr. Enfin, demain matin.
Qui va se repérer demain.
Oui.
Première information. Deuxième information, vous restez deux petites minutes en plus parce qu'en plus, demain, c'est l'anniversaire de Marcel et on a une petite surprise pour lui. Donc, on va faire partager.
Bravo.
C'est rare.
Il faut qu'on aille dans l'autre star.
Venez, on va dans l'autre
star.
On va manger une petite sucrerie, une petite douceur.
Mazal tov. Siman tov, oh mazal tov, yelanu. Siman tov, t'attendais pas, hein? Oh mazal tov, yelanu. Yelanu, yelanu, l'chol Yisrael achenu. Yelanu, yelanu. Israël, nous, Paul Israël, à nous.